vais essayer de vous montrer un petit peu, donc à travers plusieurs pratiques plastiques et artistiques contemporaines, en quoi il existe bien des défis du burlesque et du fabuleux dans l'art contemporain. Et avant cela, on va essayer déjà de voir en quoi consiste ce burlesque, qui a l'air si simple. En tout cas, moi, je le croyais au début. Et en fait, ces registres demandent une grande attention au divertissement de surface. Gilles Barbier, Claude Lévesque, Didier Traîné, Pierre Léguillon, Éric Dickertz, Sandy Amerio, Cindy Sherman, Julia Cher sont les artistes qui vont nous accompagner dans cette exploration, divertissante en apparence, mais sérieuse dedans. Pendant une première partie, les images que je vais vous montrer ne sont pas de ces artistes-là, mais je vous dirai donc les noms des artistes qui sont là un petit peu pour illustrer cette pensée burlesque. Ici, il s'agit donc de Herman, qui est un artiste contemporain qui travaille de façon très, très burlesque le travestissement. Dans une première approche, les dictionnaires définissent le burlesque comme un comique outré. Ces outrances du burlesque se réfèrent au temps des fêtes célébrées en l'honneur de Dionysos. Il s'agissait donc de cortèges burlesques qui s'organisaient autour de simulacres du phallus. Ceux-ci étaient portés par des hommes masqués, quelquefois déguisés en satyres. Et associés à ces manifestations, il y avait donc des cortèges de ménades qui dansaient, etc., complètement possédés, et qui finissaient par dévorer leurs victimes. Ces premières manifestations connues, donc d'hystérie collective, ces cortèges burlesques, célébrant les cultes phalliques, donnèrent naissance à la comédie. Aristote nous rapporte ces faits dans sa poétique. Nous essaierons d'envisager le burlesque et le conte grâce à deux axes. Le premier, c'est un burlesque que j'entends regarder du point de vue d'un genre littéraire qui est apparu au XVIIe siècle, et un autre burlesque ensuite qui est le burlesque qui est lié au cinéma muet. La première occurrence donc du burlesque, c'est celle du genre littéraire qui a surgi au XVIIe siècle avec Scarron et Perrault. Au XVIIe siècle, on le confond souvent avec le comique, le grotesque, le satirique, le parodique. Des caractéristiques pourtant sont identifiables. On trouve toujours un rabaissement des personnages, une bassesse dans le style, un dénigrement de l'antiquité, une richesse du vocabulaire, une outrance, beaucoup d'arbitraire et beaucoup de surprises. L'écriture burlesque est pour Charles Perrault, donc l'écrivain des contes qu'on connaît parfaitement, l'écriture burlesque est pour lui donc une invention moderne. C'est aussi une forme de combat et, très important, il en fait une esthétique. Il va préciser donc ses positions dans deux ouvrages, donc je vous donne les titres si ça vous intéresse, qui s'intitule « Les murs de Troie ou l'origine du burlesque » et dans un autre ouvrage qui s'appelle « Le parallèle des anciens et des modernes ». Ce qui est important, c'est que pour Charles Perrault, le burlesque est une disconvenance entre les choses les plus relevées et la façon basse d'en parler, avec à chaque fois une dégradation donc du style et des comportements. Donc on a un abaissement d'un haut personnage de sa parole littéraire et un mouvement de haut en bas. Ce qui est contraire à Boileau qui, lui, considère le burlesque autrement, qui serait une dégradation à contrario, c'est-à-dire du bas vers le haut. Il y aurait donc un personnage médiocre qui va se comporter comme un héros. Pour Charles Perrault, le burlesque n'est pas dire mal de mauvaises choses, faire de la mauvaise prose. Il peut aussi bien traiter des divertissements que de Dieu. Il est ridicule en dehors, mais sérieux en dedans. Ça sera donc le postulat de notre approche des œuvres ici. Ce bon burlesque, annonce Freud, puisqu'il libère l'angoisse à une fonction sociale, il déstabilise la ligne du corps social. Ce n'est pas le ton, mais le rapport avec le lecteur qui définit le burlesque. Le burlesque est donc une dégradation et un rabaissement au niveau stylistique, mais c'est aussi une écriture engagée. Perrault, par exemple, va lutter contre Mazarin en étant dans une lutte contre l'économie de cette période. Le burlesque a à voir donc avec une forme de lutte qui est liée au carnaval aussi. Il évoluera au sein de l'écriture de Perrault. Il devient de plus en plus caché, plus profond. Il va annoncer donc ses contes. Des personnages d'ailleurs sont repris, puisque vous avez par exemple Dilucule, qui est un personnage du mur de Troie, qui annonce le petit Pousset. Donc on trouve le puéril et le terrible de l'enfant qui coexistent dans le burlesque et les contes. L'atmosphère du jeu rend compte de ce burlesque, qui n'est pas qu'une gaminerie, ni un pur divertissement, mais une réelle prise de position claire sur le rôle de la parole littéraire comme arme de combat et de plaisir. Donc on a à chaque fois la liaison entre le combat et le plaisir. Donc je vous montre rapidement certaines œuvres dont je parlerai, si vous le voulez, plus tard, mais à la fin. Mais je voulais vous les montrer. Donc là, c'est un Anglais qui s'appelle Lee Bovary, qui est du domaine de la mode et qui a eu un travail aussi dans les arts plastiques. C'est Divine, le chanteur atypique. Donc lui encore, ici maintenant. Ça, c'est donc Rose, c'est la vie, du chant, en travesti. C'est Claude Cahun, donc cette femme de la même période que Duchamp, au début du siècle, qui se travestissait aussi. C'est une des premières. C'est Ours Louti, donc il y a en 2003, qui se travestissait aussi au début, qui continue à fanfaronner un peu. Bon, Michel Journiac, avec ses 24 heures de la vie quotidienne d'une femme. Encore les Bovary. Et encore les Bovary dans des performances étonnantes. Entrons dans les jardins des délices de Gilles Barbier, un passage obligé par le délire. On ne peut s'empêcher de penser à Rabelais quand on rentre dans le monde de Gilles Barbier. Gilles Barbier a exposé une centaine d'œuvres au Carré d'art de Nîmes en 2006. Il rumine les mots, les logorées, les bulles de bande dessinée, les noms de marques, tout un arsenal de signes que les productions viendront illustrer. Le visage de l'artiste hante les espaces grâce à la production de ses clones. Barbier se réfère à la fable, au mythe, de façon permanente. Le cheminement intérieur est matérialisé dans cette exposition par des passages de l'espace ouvert à des couloirs souterrains. Donc on avait des salles et des couloirs que vous pouvez voir, donc là par exemple, qui nous amenaient vers une autre salle, etc. Donc tout est matérialisé par ces couloirs-là et on rentrait dans l'exposition comme dans un voyage ou dans une fiction. On peut décrire le parcours de l'exposition ou bien l'œuvre même de Barbier comme un rhizome ou comme un terrier avec Deleuze. On rentre en effet dans des zones d'habitation, de circulation, et on aboutit à des réserves. Barbier crée un réseau nutritif au sens propre et au figuré, comme la circulation de la nourriture dans le corps. Il est obsédé par le corps et toute son œuvre correspond à un arpentage d'un territoire. Une salle était occupée par des pages de dictionnaire ou bien des programmes de télévision qu'il reprend. Ce sont des formats qui sont très très grands, de 2 mètres sur 2 mètres. Et ce sont des copies de définitions avec des errata, des réductions, des fausses versions. Ce qui est important pour Barbier, c'est que la visée du dictionnaire comme totalité finie soit contestée. Donc on est dans une forme de combat aussi chez lui. Il y a aussi donc dans son œuvre très importante les méga-maquettes. Donc c'est toute une série de maquettes qui sont des schémas spatiaux, des réseaux de salles, des galeries dessinées, des mondes de vers de terre, etc. Toute son œuvre s'engendre sur le mode des galeries. Les galeries qui reprennent les renvois du dictionnaire. C'est-à-dire qu'une chose en amène une autre. Et on a un monde qui est complètement lié à la porosité des espaces, des univers. Tout est très humoristique et critique, puisqu'il a un intérêt très particulier, par exemple, à la peau de banane. C'est-à-dire qu'on trouve dans son œuvre, disposées par terre, des peaux de banane. Et ces peaux de banane sont importantes, puisqu'on glisse sur cette peau de banane et on passe d'un espace à un autre. Donc on tombe dans un monde, d'un monde dans un autre. Donc c'est un peu des relais comme ça qu'il met en scène. Alors ça se termine évidemment par les entrailles de l'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut avoir dans le ventre, et par un trou de balle donc dans la tête, c'est-à-dire le trajet d'une balle dans la tête, Macabre, tragédie burlesque, tout est là. Barbier est rabelaisien, il est comme Panurge, c'est un hableur, son élan rencontre la mythologie burlesque. C'est un visionnaire aberrant, comme Rabelais. Il crée une tension entre le réel, le surréel, la vérité et des inspirations de prophètes pour rire. Il crée des plongées dans des fictions. Barbier promet l'ivresse. Donc ici, vous avez des coupes. Donc c'est ici, une coupe de poche d'existence. Donc des fantasmes comme ça, de trajets intérieurs, de aberrants, impossibles. Très, très organiques aussi. Il promet l'ivresse, le jeu à en perdre l'essence. Il invite à être fou pour garder confiance, s'enivrer de paroles obscènes, érotiques, extravagantes. Il fait partie de ces artistes qui ont compris que les délires, les rires, les sourires créent dans des croisements culturels ce qu'appelle Rabelais, ce qui devait se dire en utopien, l'espoir. Donc c'est une phrase de Pantagruel. Ce sont en effet donc chez lui des fêtes énormes du corps et de l'esprit, des débauches du ventre, du sexe, du verbe. Le prince des ventres de 2003, ça c'est encore un de ses schémas, un diagramme. Bon, il a une obsession donc sur le P, vous avez bien compris, et puis aussi donc sur ses circulations intérieures. Donc ça c'est le prince des ventres de 2003. Qui avance comme un jardinier posant sur une maquette de paysagiste un gros ventre, plus proche des constructions paranoïaques de Dali. Le ventre est porté par une brouette. Manger, boire, mais comme Rabelais. Derrière la joie du corps se trouvent les terreurs essentielles. La fête se rapproche de celle du carnaval. Boire, il signifie aussi boire la vérité. Quand il crée donc ce cycle de la bouche à l'anus, la nourriture ou le transit des éléments ne comble pas le vide de l'angoisse. Vivre, c'est parler. Donc, c'est parler comme dans Gargantua, la fameuse langue du torche-cul. Le carnaval de Barbier appelle toutes les langues. Il refabrique le pays de l'outre et de l'excès. Sa boulimie, comme celle de Rabelais, est suicidaire. Mangeaille, crevaille, paix de la mort. Donc, voilà une machine extraordinaire. Le ventre est une machinerie. Absurde mécanique qui s'emplit et se vide. Le ventre machine, c'est un ventre triste aussi, car le corps est parasité par le ventre. L'excrément, ce qui sort du corps, c'est l'obscène, la peur, la mort. Mais c'est aussi la révolte de Barbier. C'est dire son mépris à ce qui l'ennuie, comme Duchamp. C'est répliqué par une angoisse dans une période qui n'est pas le reflet de la joie. L'exposition s'ouvrait sur des clones. C'est des clones nains, enfants à la tête d'artistes, des espèces d'artistes raccourcis. Et pour lui, donc, le clone est la figure majeure qui hante son œuvre. Devenir personnage est l'enjeu des clones. Barbier fabrique des clones de cire à son effigie. Ce ne sont pas des autoportraits pour Barbier, parce que le clone n'a pas cette distance qui existe dans l'autoportrait. Le clone est une chimère. C'est plus un miroir magique qui va permettre de mettre du possible à la place de soi. Il forme donc une dérive schizophrénique du corps sujet. Son œuvre parle d'ailleurs d'un formatage communautaire. Il appelle l'ensemble de ses clones une meute. Donc, vous voyez ici un ensemble de clones avec son visage qui se reproduit à l'intérieur de ses nets, qu'il appelle aussi un groupe de survie. C'est en tout cas un corps extérieur, comme un personnage de roman, comme un réfugié aussi, comme un corps qui est demandeur d'asile. Ça, c'est assez intéressant parce que ça peut nous faire penser à ces Pierrot ou aux Gilles de la comédie burlesque qui étaient des niais. Vous savez, faire le Gilles, c'est faire l'imbécile. Et il y a cette expression aussi qui est faire Gilles, qui veut dire s'enfuir. Et s'enfuir, c'est laisser la forme donc du jeu qui est vide pour un autre. Pour Starobinsky, par exemple, les Pierrots se rapprochent de la tradition anglaise de cette expression « muet comme une motte ». C'est-à-dire que faire le clown, c'est exhiber sa forme vide pour faire rire. Et faire donc le clone, c'est créer des répliques comme ça vidées. Barbier utilise cette schizophrénie disloquante comme système de représentation. Pour Deleuze, le corps passoire, le corps morcelé, le corps dissocié forme les trois dimensions du corps schizophrénique. C'est un peu le système utilisé dans la publicité, vous savez, LIS, qui est un ensemble de fragments de corps pour avoir une femme idéale, magnifique, ou bien plus artistiquement, on trouvait ça chez Rodin, avec cet assemblage comme ça des fragments dans ses sculptures. Le clown, c'est donc une solution pour retrouver une unité après chaque désir contradictoire. Barbier crée un langage matière. Donc vous voyez des bulles qui remplissent l'espace. Et il remplit donc les mots dans son œuvre. Il utilise beaucoup ici les termes de couche, de trou dans son lexique, parce que ces mots-là lui permettent justement, comme la peau de banane, de passer d'un registre à un autre. C'est donc une culture qui est complètement fictionnelle. Et quand il réalise ses polyfocus, ça c'est un clone, et ça c'est donc un ensemble qui s'appelle sa série de polyfocus, c'est des ensembles de clones de tailles différentes. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que l'utilisation des tailles différentes signale que le personnage devient grand pour faire peur et qu'il est petit pour une autre raison. C'est absolument le système du dessin animé ou de la bande dessinée. Ces clones sont accompagnés de ce qu'on appelle, ça c'est un clone qui s'appelle le produit dérivé, et ça c'est un clone qui s'appelle la jolie fille, avec des correcteurs de réalité. Alors ça c'est intéressant, cette histoire de correcteurs de réalité, donc ce sont des petites définitions qui collent ici et là, sur les parties de son corps, et ce sont donc des commentaires qui vont créer l'image. Et c'est ces commentaires-là qui s'appellent les correcteurs de réalité. Là, ici, vous avez une jolie fille. Ici, vous avez le chien. Ici, vous avez « Je suis un chef indien ». Bon. Les correcteurs de réalité sont accrochés sur le corps du clone. Le spectateur devient producteur d'une fiction. Le langage, donc, et comme une porte qui convoque à la métamorphose. Alors, tous ces clones donc schizophréniques sont proches des mannequins de Charleret. Je ne sais pas si vous voyez cet artiste, j'avais pas d'image de lui. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur les mannequins, des clones comme ça aussi, mais qui sont imbriqués et dans une grande violence par contre de fantasmes qui n'existent pas chez Barbier. Chez Barbier, il y a plutôt cette idée qu'on est dans un monde sans origine. Ces clones sont un peu des meutes de Panurge ou bien des meutes de Tintin. Vous savez que Tintin était sans histoire. Comme Panurge, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de parents, et qu'il était perdu. Hein. Alors, comme les géants de Rabelais, qui sont très ou trop spectaculaires, Barbier montre de façon très deleuzienne qu'il n'usurpe pas des identités étrangères, mais qu'il éprouve qu'une identité est toujours fortuite et collective, et qu'elle correspond à une zone d'intensité sociale et pas à une personne définie. Le sujet est délocalisé, il se répand sur une histoire connue et il passe par une série d'états qui circulent à travers elle. C'est le fameux devenir machine donc de Deleuze, c'est-à-dire trouver une zone de voisinage telle qu'on ne peut plus distinguer d'une femme, d'un animal, d'une molécule. On peut créer donc une zone de voisinage avec n'importe quoi, à condition d'en créer les moyens, dit Deleuze, les moyens littéraires ou bien les moyens artistiques. Alors quand on aborde Claude Lévesque, on entre dans un autre monde qui est, pour moi, celui de l'enfance perdue. Claude Lévesque a une œuvre qui est très divisée entre le récit onirique et des espaces perceptifs, haptiques, où tous nos sens sont mis à contribution. Sa place, ici, est intéressante après Gilles Barbier parce qu'ils ont des points communs sur l'attention au sujet dans l'espace, sur sa déstabilisation par la narration ou la sensation. On va entrer donc par le lit dans son œuvre. Il réalise l'Enchanté au château d'Alex, qui était une exposition proposée par le MAMCO de Venise. Et il invitait un parcours à l'intérieur du vrai château. On pouvait traverser des douves, une chapelle, etc. Et on arrivait donc dans une tour où il y avait un lit à baldaquin gigantesque qui s'appelait « L'aliéné étendu ». Cette œuvre fonctionnait comme un piège entre le rêve et l'angoisse. Il y a toujours une grande part d'ambivalence dans son œuvre, parce que d'abord, on est complètement séduit, comme par enchantement. On rentre, en effet, dans le conte. Il y a une princesse qui a bien dû dormir dans ses draps froissés. Il y a des voiles qui sont agitées. On peut entendre des sons de harpe. Bon, très bien. Et puis, d'un seul coup, tout bascule autour du gigantisme, des draps, des airs trop froissés, de la mélodie accablante, de la lumière qui est complètement blafarde. Et on trouve une quantité de boîtes de conserve vidées qui sont déversées près d'une fenêtre. Eliane Burnet analyse cette œuvre autour du titre, qui est « L'aliéné étendu ». On pense à la princesse Aliénor. Aliénor, c'était la reine d'Aquitaine qui avait été emprisonnée pendant 15 ans par son mari. Et on pense aussi à une histoire, donc moins ensorceleuse, d'un aliéné géant, donc un destin absolument douloureux. Claude Lévesque fait miroiter l'enfance et le désir de conte, mais autrement. Dans une exposition qui existait donc cette année, je pense qu'elle est terminée depuis quelques mois, au Magval, au musée de Vitry, il y avait donc cette exposition qui s'appelait « Le Grand Sommeil ». Alors Mehdi, c'était un visuel qui avait été utilisé donc par le musée et par Claude Lévesque, qu'on trouvait dans les métros ou bien autour de la ville, qui annonçait donc l'exposition. Alors Mehdi, bon, on le connaît nous, mais je ne sais pas si les jeunes le connaissent. C'est l'acteur complètement fétiche du feuilleton Belle et Sébastien, et c'était pour Claude Lévesque une façon de revenir sur une œuvre qu'il avait faite en 1984 qui s'appelait « La nuit ». C'était un territoire de tipi où vous aviez des portraits d'enfants peints enfouis dans le sable avec une bande-son. Et cette pièce était comme une île d'icônes de l'enfance. Ce qui est intéressant dans cette utilisation de Mehdi, c'est que Mehdi devient une préface. L'illustration des contes est reprise au sens premier de l'ouverture au sujet. Le frontispice, c'est une gravure qu'on trouve sur la première page des livres de contes. Et le sujet, en général, de ces images est analogue au but et à l'esprit de l'ouvrage. À la lisière du texte, donc ici, à la lisière de l'installation, l'effet de sens est garanti. Mehdi, l'enfant en pyjama sur le photogramme, agit sur l'interrupteur électrique. Le gros plan est choisi sur son visage, surtout sur son regard. Il a un regard très particulier qui ne voit rien. L'enfant est occupé, préoccupé par sa pensée. Il a le doigt sur l'interrupteur électrique qui ouvre ou fermera la scène. Claude Lévesque reprend ce procédé littéraire de façon monumentale. La double stratégie de l'artiste vise la représentation et la narration. Cette image condense et annonce la lecture à venir du conte, l'entrée dans l'intimité. Le conte à écouter était déjà devenu, donc qui est une tradition orale, c'est déjà devenu un conte à lire. Avec Claude Lévesque, la consommation du conte devient à voir. Les sources populaires du conte sont réintroduites par Claude Lévesque dans l'utilisation d'une image d'un enfant qui appartient à l'histoire populaire d'une époque. Mehdi appartient à une culture inconsciente de l'enfance, comme certains personnages des contes. La fée électrique a remplacé les bougies pour enclencher le merveilleux. L'enfant ne regarde pas hors scène. Ce qui est très typique des frontispices sur les livres de contes, c'est qu'en général, le personnage regarde à l'extérieur du livre, ce qui va nous amener donc à l'intérieur du livre. Ici, l'enfant regarde en lui-même et ouvre donc plutôt à l'espace onirique, qui sera l'immense installation des lits volants de Claude Lévesque, qui était donc à l'intérieur de l'espace. Alors on entrait au Magval par un couloir sombre et on tombait donc dans cet immense espace totalement obscur avec des rangées de lits blancs suspendus qui étaient éclairés par la lumière qui était plutôt violette. Sur le sol, il y avait de grands compotiers transparents qui contenaient des boules blanches et on peut retrouver donc ces boules transpercées par les barres des lits. On entre comme dans un boulier dans l'apprentissage du calcul. L'enfance à ras-bord, et on entend une comptine qui reprend les musiques des salles de jeu japonaises du pachinko. La première impression générale qu'on pouvait ressentir, je ne sais pas si vous y êtes allé en tout cas, c'était cette impression d'être extrêmement petit et que l'homme était extrêmement petit, tout pressé d'enfance. Le pensionnat donc des lits d'enfants n'en finit pas de créer un vol de lits. L'espace est complètement situé dans le malaise. La présence saillante des objets assume la fonction de déréaliser à force de présence. Claude Lévesque, maître des apparences, réconcilie le conte et la peur du vide. Il surmonte l'alternative présence-absence en démaquillant la réalité comme les enfants. Du conte, Claude Lévesque isole la chaussure rouge d'une géante enfermée dans une petite remise dans la sucrière de Lyon et l'installe à Beaubourg sous l'emprise d'une poursuite théâtrale qu'on peut voir encore. La chaussure de Cendrillon devient l'héroïne d'une valstar. Souvenir d'une bière et d'un mot valise. La valse, ce qui est embêtant, c'est que là, je vous montre uniquement des images et qu'il y a une bande-son toujours extrêmement importante dans son œuvre. Donc, on est un peu, on a du mal à comprendre absolument cet état dans lequel on peut être dans son œuvre. Donc, cette valse qui entoure comme ça, donc, cette chaussure et ce contexte-là, c'est celle de l'empereur de Strauss qui est complètement ralenti et distordu. Donc on a cette chaussure Barbie qui est enfermée dans la cabine de contremaître, un accessoire qui est tellement agrandi qu'il devient monstrueux et menaçant. De la femme, la chaussure à talons est rabattue par la chaussure mythique d'un comte. À Château-Thierry, en même temps, donc vous voyez cette chaussure donc qui était avec des proportions énormes, à Château-Thierry, en même temps, il exposait une œuvre qui était très très belle, qui s'appelait Friandise intérieure, et qui était installée dans une ancienne usine à gâteaux Pépito. On entrait dans un univers qui soulignait le lieu qui avait existé, sa mémoire. Il y avait donc des cercles lumineux qui rappelaient les traces des objets qui étaient des malaxeurs de chocolat. L'univers de l'enfance restitue un hyperespace. On a des petites chaises donc d'enfants, qui sont extrêmement petites, qui sont installées dans un silo de 15 mètres de haut, brouillé par de la fumée. Un cordon de tubes de néon très bas marquait le lieu qu'on pouvait estimer à l'échelle des enfants. Claude Lévesque veut restituer l'impression d'écrasement de l'enfance et de l'enfant par le poids de l'humanité. Il veut faire ressentir la peur, le domaine des appréhensions, qui sont des éléments liés à l'enfance, que chacun peut retrouver dans des états donc, de perception et de déstabilisation. Déstabilisation, c'est un mot qu'il emploie très facilement et qu'il répète beaucoup. Il y a toujours donc une ambivalence dans l'œuvre de Claude Lévesque entre le conte de fées et les backdoors à faire, c'est-à-dire entre on n'y voit rien et le conte de fées. Le spectaculaire, chez lui, est comme pompé de ce qu'il l'imprègne comme menace pour que le réel gagne en puissance. Claude Lévesque a la capacité de déplacer l'intime et le monumental. Il a une façon de mettre à nu dans un rapport surdéterminé, surdimensionné. Il agit au cœur des représentations d'un monde spectaculaire pour donner à voir et traduire des éléments propres à l'intime. L'intime, c'est ce qui est intransmissible. Pourtant, son œuvre nous plonge dans nos fantasmes et dans nos rêves. Claude Lévesque joue avec des mondes possibles. Il est très proche de David Lynch. David Lynch annonce la chose suivante. Juste au-dessous de la surface, il y a un autre monde et encore des mondes différents lorsque vous plongez plus profondément. Enfant, je le savais, mais je ne pouvais pas le démontrer. C'était seulement une sensation. Il y a de la bonté dans le ciel bleu, les fleurs, mais une autre force, une douleur sauvage et un pourrissement accompagnent toute chose. Lévesque est proche de tout ça. Son monde est aussi un monde qui nous soumet au sentiment de l'inquiétante étrangeté, qui est une menace qui ne frappe pas du dehors, mais qui désagrège du dedans. Toutes les œuvres donc, de Claude Lévesque sont des pièges qui remettent le spectateur à l'état d'enfant. Les univers parallèles, ces installations, autant que les films de David Lynch, feuillettent des mondes sous le monde. Ici, donc, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Cercle de 2005, qui est donc une installation de faux réel. Et cette œuvre, donc, vous voyez l'ambivalence, est installée dans la chapelle des pénitents. Donc, il y a un jeu avec la religion qui est intéressant. Si Barbier donc ouvrait le style de Rabelais pour dire une forme du burlesque, pour y entendre les figures du carnaval, dans un mouvement inverse, de bas en haut, Claude Lévesque déplace l'objet banal en objet vanité. Il appelle ça une vanité. L'objet pour lui est une vanité. Il lui donne donc un ensemble de plus-values. L'objet est surjoué, surtravaillé, dans une surcompétence de l'artiste qui déclenche des interprétations. Il y a une autre forme du burlesque qui est donc plus proche de nous dans le temps, qui apparaît au début du siècle avec le cinéma muet et ses grands noms, donc Charlot, Lévis, les Marx Brothers. Ce cinéma a trouvé sa source dans le théâtre populaire, les foires, les cirques et le café-concert. Ce qui est très intéressant dans ce type de burlesque, c'est l'évaluation des compétences, de la virtuosité et de la spécialité. On aurait par exemple deux sortes d'artistes. Il y aurait d'un côté ceux qui savent faire, ceux qui le montrent de manière plus ou moins ostentatoire, donc les champions de la compétence, les virtuoses du médium, les spécialistes. Et puis de l'autre côté, on aurait des expérimentateurs, de l'incompétence, des professionnels du ratage, des maniaques de l'échec. Dans la première catégorie d'artistes, on pourrait inclure des gens comme Mathieu Barnet, donc complètement spécialisé dans la technique, ou d'autres artistes comme les sculpteurs Richard Serra. Dans la seconde, on a des artistes qui sont iconoclastes, qui mènent donc le gag jusqu'au bout et qui vont répéter des choses complètement sans intérêt, sans la moindre progression dramatique, mais qui vont uniquement donc se concentrer sur des microdrames. L'objet pour ces artistes est dès le départ l'image de l'objet. Tous affirment dans leur œuvre que les objets ne signifient pas grand-chose, qu'en gros, ce qui signifie, c'est qu'il ne signifie rien. Ici, vous avez donc les dessins idiots de Didier Trenet. Donc Didier Trenet, c'est un assez jeune artiste qui pratique le dessin et la sculpture en parallèle. C'est un virtuose du dessin et il a par contre un assemblage très particulier puisqu'il va confronter donc cette capacité à dessiner parfaitement et à déplacer donc les registres dans des univers du type collège de pataphysique et dans des mondes aussi où l'école est très très importante. Il va utiliser systématiquement les cahiers d'écoliers comme support. Et ces dessins donc sont des jeux qui empruntent diverses parodies de style. Donc il reprend la virtuosité des dessins du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et en même temps, il ruine les genres. Alors ce qui est très amusant, c'est par exemple, il a fait toute une série de serpillères. Donc ici, vous avez une serpillière, une autre. Et vous avez aussi ici donc un dessin. Donc pour lui, la serpillière, c'est une forme de réponse au drapé classique. Vous avez donc tout un travail comme ça sur l'écriture, sur la calligraphie, la belle écriture. Ici, il s'agit du baiser, donc vous avez deux verres. Il a une attention très particulière à la boisson et à l'alcool qu'il inclut à l'intérieur de son œuvre. Tout ça est donc écrit sur ou dessiné sur des cahiers d'écoliers, des feuilles. Donc ici, c'est une référence à la carte du tendre. Ici, vous avez les travestis, donc qui sont des objets qui sont très proches des surréalistes. Et il a donc un rapport aussi entre le dessin et la sculpture, puisque toutes ces arabesques qu'on peut retrouver dans ces calligraphies, il les matérialise dans des sculptures qui deviennent donc des objets que vous pouvez voir là. Alors, il ruine donc les genres et, par exemple, il reprend le thème de la nouille dans ses gravures, ou bien, donc ici vous avez une serpillière en gloire, donc il reprend la mandorle qui en général entoure ce qui est lié à la Vierge Marie ou à la religion. Ici, donc, il fait des jeux de mots, donc c'est très très proche des surréalistes, donc c'est sèche-béton, lèche-béton, etc. Et vous avez donc au centre un pénis en berne sur une croix qui est entourée d'une pluie de petits sexes féminins. Il appelle ça « il pleut ». Alors, Didier Traîné, son intérêt par rapport à ce burlesque-là, c'est de mettre le modèle en crise. Le drapé classique, les modèles des ateliers et les techniques adaptées sont vraiment liées à la faillite du sens. Pierre Léguillon est un artiste contemporain qui a, lui, un rapport au diaporama des écoles qui est très, très particulier. On connaît tous les diaporamas scolaires ou familiaux qui sont très, très ennuyeux et qui nous mettent toujours en otage. Avec Pierre Léguillon, on assiste de façon très, très amusée à un diaporama. Il réalise depuis 1993, donc depuis quand même 13 ans, hein, une cinquantaine de diaporamas qu'il appelle ça « in progress », donc ils sont conçus sur le mode de la performance. Son diaporama a évolué au cours du temps. Il photographie toujours des images d'œuvres d'art, donc dans des revues, des catalogues, etc. Et il travaille donc seul ou avec d'autres artistes. Et il remplace le commentaire par des présences sonores, des voix, des bruits, des chansons. L'artiste est présent dans ce diaporama. Il est présent par des morceaux de son corps, quand on voit un petit morceau de son doigt ou des choses comme ça, ou alors comme performeur. Chaque diaporama est accompagné aussi d'un objet dérivé. Ici, ça peut être un plateau, un ballon. Et ici, il s'agissait d'un diaporama qu'il avait réalisé à la Maison Rouge en 2005, où il était accompagné de Bernadette Lafont, la comédienne. Et ils avaient donc travaillé ensemble sur un produit dérivé qui était une tuile. Bon, alors la tuile... Le dernier diaporama de 2006, c'était un porte-manteau en carton qu'on pouvait emporter. Alors, ce qui est très intéressant dans son travail, c'est qu'il il peut apparaître donc faisant ici un peu de gymnastique, se cachant les yeux et distribuant donc à la fin, par exemple, du diaporama avec d'autres gens, des vêtements du vestiaire. Devenu personnage dédoublé, informateur souterrain, il crée un autre roman à clé, à la façon des chansonniers au temps de la Régence. Son diaporama n'est qu'une succession infinie de cadres, de sons, de cartons, de chansons et d'images qui s'enchassent les uns dans les autres. L'histoire de l'art est faite de pièces et de morceaux, comme si elle avait une voix empruntée, un visage greffé. Pierre Léguillon lui répond par un diaporama inversé. Les images volatiles du carrousel n'expliquent rien. Encore une fois, on est dans cette idée que ça ne signifie rien au bout du compte, puisqu'on entend des gens, par exemple, qui lisent en faisant des bulles dans un verre d'eau. Donc on ne comprend pas. Un autre conférencier donc très important, c'est Eric Dickertz, qui lui fait de la conférence une œuvre très très particulière. Quand il fait une conférence sur la main, jusque-là donc tout va bien, sauf qu'il n'est pas du tout scientifique, il est artiste, et qu'il parle pendant 20 minutes au nom d'un anthropologue martien, d'une main à 6 doigts ou d'une main à 2 pouces. Donc il aborde la philosophie, les mathématiques, et il fait du maître, un personnage dont il s'est emparé pour créer une forme d'hygiène nouvelle des savoirs à partir de clichés qui en créent évidemment d'autres. Eric Dickertz fait de la conférence improvisée un des beaux-arts. Il utilise les découvertes, la recherche qui nécessite les interventions de savants, les chercheurs ou les critiques d'art pour fabriquer des acrobaties de langage et de gestes d'une façon extrêmement ludique devant un tableau, derrière un bureau ou bien directement ou en vidéoprojection sur un paperboard. Alors il y avait donc les grands philosophes, il y avait Derrida, il y avait Lacan, de réels orateurs avec une assistance régulière. Lacan était ce merveilleux joueur à l'intérieur du système de la conférence des séminaires. Il déplorait un public trop nombreux en le violentant, regrettant les petits groupes de recherche face aux salles remplies à ras-bord. Il pouvait dire « Ne venez plus de la place, vous ne comprenez rien, faisons rentrer le simple d'esprit. » Lacan, mais surtout Umberto Eco, alors Umberto Eco, j'ai l'impression qu'il y a une petite dent contre Umberto Eco, toutes les rhétoriques, les types d'intellectuels, les métalangages qui sont chargés de citations latines, grecques, tout cela fait l'objet de son attention et il va donc les intégrer à l'intérieur de ses conférences. Ici, vous avez une de ses conférences qui s'appelle « The Dummy's Lesson », donc c'est la leçon de la marionnette. Le demi donne une leçon à son manipulateur devant le paperboard. Les dessins sont réalisés par le manipulateur entre le gribouillis enfantin et l'art abstrait. Les questions d'identité ne cessent de s'échanger entre les deux compères qui portent le même visage de l'artiste figé. Un masque recouvre Eric Dickertz et aussi le masque donc de la marionnette. Eric Dickertz entreprend l'amour de la langue et de la traduction. Tout a commencé dans des tournois d'éloquence que pratiquent les enfants belges à l'école. Et il va donc troquer sa dette au maître en le parodiant de façon burlesque. Eric Dickertz avance masqué. Il déguise le déguisement de la conférence avec la complicité du public. C'est une sorte d'arlequin qui porte sa livrée. Il ne trompe jamais vraiment personne, sinon dans la figure malicieuse et désinvolte d'un autre maître, héroïco-comique. You're out of fashion, Eric. Out of fashion. C'est la dernière phrase donc de sa marionnette. Donc vous voyez là les deux visages complètement impassibles. Donc il y a un genre littéraire et il y a aussi un genre qui était lié au cinéma muet. Il y a une troisième voie qui est celle d'un burlesque qui se situe plutôt du côté de la mascarade. C'est un burlesque très vivifiant qui met un peu, si on peut dire, la réalité au pas du principe de plaisir. Alors ce burlesque-là, je vais le mettre entre les mains de trois femmes qui vont nous démontrer très bien que la femme artiste n'est pas uniquement une belle au bois dormant, mais qu'elles sont très bien réveillées, qu'elles prennent la réalité économique, politique et sexuelle en main pour mieux contrôler les images. Alors la première artiste, qui est une jeune artiste, c'est donc Sandy Amerio, qui va exposer, je pense, bientôt aussi au musée de Vitry, au Macval.
Alors, juste pour information, quand elle était petite et inconnue, elle a commencé par exposer ici, il y a, qui s'appelait, les années 90, donc, et c'était en 95, 96, elle a exposé ici. Elle avait fait une installation dans l'ascenseur. Et elle avait encore les trous, on pouvait entendre quand on l'ascenseur, une petite comptine qu'elle avait imaginée.
Non, c'est marrant. Alors, elle réalise une vidéo, on va peut-être pouvoir en voir un extrait. Bon, mais c'est pas grave, c'est un film donc, qui s'appelle Candy Volunteer. Donc, c'est une vidéo danse de corps halluciné devant un supermarché.
Ah, c'est ça le film.
Alors ce qui est important de repérer ici, c'est que les personnages deviennent des zombies, donc elle appelle ça des zombies, et aussi donc des personnages donc complètement errants et abîmés par l'économie, évidemment. sais pas si on peut voir l'autre, mais je sais pas.
Mais je sais pas, on va essayer. Est-ce qu'il se passe quelque chose?
Donc ça serait bien si on avait Irmi.
Ah, je sais pas comment j'y vais.
C'est, je pense qu'on va appuyer sur ça.
C'est pour reculer, avancer. C'est une interaction à ce que tu fais.
Je sais pas si ça pourrait peut-être pointer. Bon, si je fais play, puis que je. On va voir quel.
Ah non, non, il a, c'est
non, on va le voir sur.
Attends, je vais avancer. Stop. Ben non, demain j'aurais pu essayer d'avancer en chapitre.
Ah oui.
Ils se suivent de toute façon. Mais
bah, sûrement, j'imagine. Oui.
Oui, oui. Voilà, vas-y.
Donc quand ça sera le bon, ça va pouvoir.
Non, ça c'est celui qu'on vient de voir. Non, c'est pas celui-là, je voudrais un autre.
Ça fait quoi? C'est pas ça?
Non. C'est pas ça non plus.
Mais on est à l'intérieur d'un film là, non?
Ouais, je sais pas.
On est dans un seul là?
Ouais, je crois qu'on est dans un seul et qu'on est entre nous. Ah, voilà. C'est la bonne page.
Je sais pas comment est-ce que tu. Il n'y a pas de télécommande avec ça. Avec le lecteur DVD, il n'y a pas de télécommande. Si je peux faire.
Normalement, il devrait en avoir un.
Ouais, il devrait y avoir une télécommande.
Ah non, on vient de le voir.
Ouais.
On vient de le voir, c'est pas ça.
Non, non, ça,
c'est
ça,
il y a un truc qui va pas.
C'est 110. Ça. Bon, bah, je vais voir s'il y a une télécommande.
Bon, on peut laisser cette image, mais c'est pas ça. On regardera peut-être tout à l'heure.
Il n'y a pas trop de touches. Il n'y a pas trop de touches.
Je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, il s'agit de Sandy Amerio. Les images défilent, là? C'est bizarre, je comprends. Bon. Donc, elle réalise une vidéo qui s'appelle « Irmi Children Yet to Be Born ». Alors là, c'est un titre qui est un peu intraduisible, qui pourrait être « Écoutez-moi les enfants, vous qui allez enfin naître ». C'est un film de 2004. Et ce film est tourné dans les décors naturels de la Vallée de la Mort aux États-Unis avec deux véritables comédiens. Il s'agit de deux cadres supérieurs d'une entreprise, victimes donc du storytelling. C'est une pratique de management qui est utilisée dans les pays anglo-saxons pour remotiver. Donc c'est les deux, c'est, enfin là vous voyez en petit, hein, c'est pas très bien mais tant pis, c'est en haut les deux films que vous voyez là. Alors cette pratique donc qui est utilisée dans les pays anglo-saxons et qui est utilisée aussi maintenant un peu en France, donc c'est une pratique qui existe pour remotiver, gérer les conflits en racontant de belles histoires aux employés. Donc chaque storyteller, donc c'est un métier, hein, a sa manière de procéder et il procède avec des récits très allégoriques qui fonctionnent beaucoup sur l'analogie et la métaphore. Donc Sandy Amerio va se réapproprier cette pratique pour créer une histoire où l'Ancien Testament et l'histoire de Lot sont convoqués. Donc on trouve par exemple comme un exemple de commentaire possible du storytelling. Lot a dû se séparer de sa femme pour être performant. La compagnie doit se séparer de vous. Bon, d'accord. Alors, à partir des interviews, donc, elle a fait un travail de documentariste d'abord, en travaillant à partir d'interviews de licenciés d'une entreprise OCT dans l'Essonne. Et ensuite, elle réalise une histoire contemporaine du rapport de l'homme au travail. C'est un homme et une femme, les protagonistes du film, qui errent dans la manipulation et la désorientation. Ce sont des corps qui sont devenus des corps-machines, comme on a vu tout à l'heure donc dans Candy Volontaire, ou bien ici des corps animaux dans cette vidéo donc, que vous ne pouvez pas voir. Alors, les personnages qui sont ou des zombies ou des cadres errants au ralenti, puisque tout est filmé donc au ralenti, dénoncent de façon burlesque et narrative que la prise du pouvoir politique et économique sur le corps se fait sur la vie même des individus maintenant. Sandy Amerio transpose le monde de l'entreprise dans une chorégraphie, donc dans le premier film qu'on a vu, ou dans des espaces géographiques et mentaux où la vie est dans un monde à part. La vallée de la mort, c'est pas rien, quoi. Donc les corps sont réduits à merci et abandonnés. Des corps complètement disjoints de tout ce qui qualifie une personne. Cet homme et cette femme appartiennent maintenant à des parcs humains. Alors, ces micro-pratiques au sein de la consommation économique et de l'entreprise s'incarnent dans un conte. Cette forme était la seule, à mon avis, qui pouvait convenir à cette démonstration d'un état d'exception dans un état normal des choses. La critique par l'artiste des méthodes douces prend des allures de romance qui fabriquent autant des fantômes que des figures régressives. Ralenti, gestes saccadés donc dans ce qu'on vient de voir, le corps ne revient à l'attention des individus que sous la forme du symptôme. Ce conte et ces contes donc de Sandia Merio présentent l'altération dans un processus de type borderline. Ce sont des gens qui sont vidés de leur nom propre, et qui deviennent donc des personnages, des sans-nom. L'espace public qui était cher à Hannah Arendt est devenu un ensemble d'identités personnelles et collectives codées. La vie donc est devenue un théâtre de l'absurde, un monde autiste. Sandia Merio est très intéressante dans la culture de l'art contemporain actuel parce qu'elle fait une critique de la société spectaculaire et surtout de sa capacité à faire du rapport humain une falsification qui est une nouvelle manière de communiquer. Sandia Merio pirate les fausses valeurs, ici, donc dans ces deux exemples, à travers le conte et le burlesque. Je pense qu'on verra peut-être le film si on y arrive tout à l'heure. Ah, tu as la machine ?
Alors, c'est laquelle que tu veux ?
Mais moi, j'aimerais bien le numéro 1 ou le numéro 2.
Bah, attends, quand vous les sélectionnez, il n'y a plus qu'à appuyer sur lecture. Eh oui, on va essayer. Mystère.
Ah, ben voilà.
Ça marche, tu vois, regarde. Tu peux faire tout ça.
Ah, comment je fais ?
Bah, tu sélectionnes avec les flèches.
Là, ça va venir. Voilà. Et puis, le son est important aussi. Pour venir sur les images fixes, non ? Quel cirque ! Alors, celle-là, je ne sais pas si on peut voir ça, sinon... Celle-là, là ?
J'essaie de... avec les flèches, mais... Tout à l'heure, j'ai réussi. Là, je marche, j'arrive plus. Ah oui, parce qu'il marche toujours.
Ah, voilà, ça... ça... Non ?
Zut. Comment j'ai fait tout à l'heure?
Diriger vers le lecteur.
Hein?
Diriger l'écran vers le lecteur.
Ah ben oui, c'est pas là-bas, il se passe rien là-bas. Oh, ben alors.
Voilà.
Je suis pas la télé.
Oui, c'est...
Entrée. Non, entrée. Voilà, on fait entrée comme ça. Je suis une pro, là. Non, c'est encore...
Si, c'est ça, c'est l'autre extrait, je pense. C'est bon, je pense que c'est ça.
Thank you very much. Thank you all so very much. And before I see anything else, good day.
Ça, c'était la photo qui était dans la presse.
I hope you're all comfortable. Let me introduce myself. My name is Robert Johnson. I'm here today to tell you about the power of stories. I want your story. Your story is the most powerful tool ever invented. Do you hold people's attention when you speak? Do you know how to communicate your goals and your actions? Imagine the incredible potential within your organization if you can free the extraordinary creativity in each one of your employees. Because your employees possess your power. The world is your company. The more you develop a larger vision, the more your company will prosper. Do you remember the stories you were told when you were a child? The energy that your mother or father put into those bedtime readings? The complex inflection in their voices that evoked so many marvelous images for you? If you're a manager, you must have the sentiment that the ideas you're producing today will have an impact in the next century and on future generations. Begin speaking to the children yet to be born. Organization at work has changed. You have to bring your collaborators to the highest level of emotional investment. You can obtain both better flexibility and autonomy on the part of your partners, which will win you success.
Oui, donc vous voyez un peu le contexte. Donc faire un compte avec l'entreprise, c'était son projet qu'elle a réussi à mon avis. Je ne sais pas si on peut revenir aux images fixes.
Bien sûr.
Entrée 1.
Alors, cause, menu. Menu, menu, menu.
Voilà.
Toc, toc, select. Select. Non. J'ai raté quelque chose.
Retour écran, peut-être.
Hein? Retour écran. Voilà. OK, select. On peut faire n'importe quoi, les filles, là. Hein? Bah, je sais pas. Menu. Menu.
Entrée 1.
Entrée 1. Normalement, je fais select.
Oui.
Là, j'ai fait select. Après, il me fait... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Retour écran. Anaska. PC digital, enfin. On va à PC.
Ah, ouais, voilà.
Select. On va faire toutes les entrées, c'est pas grave.
Là, c'est pour revenir aux images sur mon ordinateur.
Oui, oui, on essaye.
Hein? Analogue ? Vous pensez analogue ?
Bon, écoutez, on va tous essayer. Hein. On va voir. Il réfléchit.
Ah, bravo. Bon, alors, donc, on revient tout. Alors... Bon. Ah, par contre, ça défile plus.
Ça ? Qu'est-ce qui défile plus ?
Ah, si ! Bon, ça marche plus de la même façon, c'est pas grave. Mais par contre, il faut que j'avance. Alors, attends. Voilà. Mais tu vois, ça marche plus là. Enfin, bon, c'est pas grave. Après donc cette entreprise donc de fausses valeurs sur laquelle a travaillé Sandy Amerio, il y a donc deux grandes déesses vraiment de la manipulation des images. C'est Cindy Sherman, que vous connaissez absolument. Cindy Sherman a très bien compris tout cela. Elle est devenue des autres. Elle représente avec intelligence, impertinence et sérieux la fameuse formule de Lacan « la femme n'existe pas ». Elle est multiple, elle n'est pas universelle, elle est unique à chaque fois, elle est un inventaire de personnages. Elle va porter donc des tas de paradoxes en mimant donc le cinéma italien, en se travestissant en personnage de faits divers, en personnage historique, en pantin, d'où elle s'exclut de la représentation. Elle porte toutes les casquettes du photographe, du cinéaste, de la comédienne, de la maquilleuse, du metteur en scène. Elle fait tout, elle se dédouble, se redouble pour déconstruire dans ses représentations la construction symbolique de la sexualité féminine sur le modèle du masculin. Elle montre les prothèses, les perruques, jusqu'à ne plus montrer que des lieux où s'inscrit la jouissance. Pantin, queue à pustule, godemiché, sexe féminin et masculin collé, comme dans les poupées de belle-mère. Elle découpe les zones de jouissance de la femme, mais toujours en masquant les parties nues de son corps par des éléments étrangers. Elle représente et ne cesse de nous montrer que dans son autobiographie elliptique, la femme demeure un ensemble d'images fausses, de travestissements, dont l'artiste dit être un peu de toutes ses filles. Elle est sans limite. La femme se prête au fantasme de l'autre, et Cindy Sherman devient les images de l'arbitraire de l'autre. Il y a une série qu'on connaît peut-être moins, qui est cette série des années 2000-2002, qui s'appelle Hollywood Hampton Type, et je la cite. « Les personnages devaient être des comédiens ratés ou tombés dans l'oubli, les secrétaires, les ménagères ou des jardinières dans la vie réelle. Elles posent pour des portraits afin de postuler pour un emploi. » Ces gens essayent de se vendre de leur mieux. Ils supplient le spectateur « Voulez-vous m'embaucher ?» Elle renoue donc avec les costumes et les accessoires dans cette série-là, en parodiant le jeu des identités sociales avec ses stéréotypes. En gros, le message est « Nous ne sommes que de simples figurants. L'identité est ici réduite à un rôle et à l'image que nous donnons aux autres. » Cindy Sherman déconstruit les codes et les conventions de représentation du féminin. Toutes ces fictions identitaires, ces travestissements, remettent en jeu l'instabilité de la subjectivité. Elle est partout et nulle part. Et quand elle choisit donc la figure du clown, donc dans les années 2004, elle annonce l'homme qui est converti en image. Donc elle était exposée au jeu de paume, il y a un an. Où... Elle met tout en morceaux. Le travestissement, l'hybride, le transformisme, tous ces éléments-là rabaissent les médiums artistiques, les genres, que ce soit la nature morte, le portrait historique, elle a été dans tous les registres, Cindy Sherman. Ce qui est très important dans son travail, c'est que l'art majeur et l'art mineur sont complètement détrônés. Elle lutte contre la croyance dans la représentation. Elle veut faire décharger l'œuvre d'art comme on le fait des escargots. Elle pense un art anesthétique et elle liquide l'œuvre de son aura. Même si elle en rajoute, réduire est son obsession. L'original est perdu, ça c'est très important. Elle est vraiment proche d'un nihilisme actif, comme chez Duchamp. Pas de pessimisme, pas de religion. Elle fait passer les registres de l'art du propre au vide. Le plaisir est inhérent au jeu des perspectives. Elle fait voir en même temps l'apparence et l'apparition. L'image devient un moule. Toute perception est le moule d'une autre perception. Son attachement donc au clown n'est pas du tout anodin. C'est un moule dans lequel on s'engouffre. La parodie, le burlesque, ouvre la représentation au mime, au caméléon du clown. Cindy Sherman crée contre le jugement, le génie, l'imagination, contre la satisfaction esthétique. Donc il y avait donc cette série des clowns qu'on pouvait voir là-bas. Je vais terminer par une artiste américaine qui s'appelle Julia Cher, qui était exposé à travers son lit, encore une fois, un lit qui appartient à un collectionneur et qui était exposé à la Maison Rouge dans cette très belle exposition qui s'appelait L'intime, le collectionneur derrière la porte. C'était en 2004. Ce lit s'appelle Surveillance Bed. Donc c'est un lit métallique, une nouvelle forme du lit à baldaquin, dont il ne reste que la structure sans le plafond du lit. On y voit un seul oreiller et surtout, ce qui est très important, quatre caméras qui surveillent le lit du dormeur. Alors, si, Julia Cher a toujours travaillé donc sur la critique du développement technologique et sur ces phénomènes d'exhibitionnisme et de voyeurisme. Elle installe, par exemple, en 1993, au musée de Hambourg, dans les toilettes des hommes, des caméras vidéo. Ces images étaient retransmises en direct plus haut. Donc l'intimité, évidemment, publique, rigolote, est suivie après, plus tard. Donc vous voyez des tas d'espaces comme ça qu'elle crée. Et plus tard, l'année d'après, au musée de Cologne, elle crée un quartier de haute sécurité carnavalesque avec des messages qui étaient diffusés par des haut-parleurs complètement paniquants. Et aussi des moniteurs qui rendaient compte d'un braquage du bureau du directeur du musée. Alors, le réalisme est tout le temps mélangé à la mascarade dans une sorte de mariage entre la paranoïa et la manipulation. Donc, Surveillance Bed, c'est, ça c'est, vous voyez, un moniteur aussi qui est là pour vous dire que vous avez été pris en effraction, donc qui vous met à l'intérieur de son processus. Donc, ce lit de surveillance relie le désir et les implicites sexuels sur le mode personnel de la surveillance. Donc, c'est quand même très curieux comme lit. Il embrouille tout sur le mode sadomaso, tout comme son œuvre qui est liée absolument à cette idée de mettre tout sur haute surveillance. Il y a dans son œuvre la volonté de démontrer que le désir est toujours sous haute surveillance d'un autre, que ce soit les réseaux donc technologiques, que ce soit aussi l'écrasement de son propre désir. Elle a été exposée donc dans des lieux différents, à Milan et à Fribourg, et ce lit. Donc sous ce lit, vous aviez des choses qui étaient installées, des cordes, des filets, des préservatifs, des instruments policiers, etc. Et puis donc le visiteur pouvait faire ce qu'il voulait. Bon, il ne faisait pas grand-chose, évidemment, parce que dans ce contexte-là, c'est pas possible. Mais ce qui était très intéressant, c'est de mettre en jeu et mettre en scène le désir dans le jeu et dans le fantasme. Elle souligne tout le temps les excès, la démesure, la duperie, mais aussi le ridicule de la cible. Par exemple, donc ici, les ébats sexuels sous des rétournelles, don't worry. Il y avait des incitations qui étaient don't worry, don't worry, don't worry. Donc elle met hors norme, hors la loi, sous la houlette d'un dispositif de surveillance qui nous met absolument en joie. Julia Cher, donc, ça c'est toujours le lit en question, se déguise. Elle porte une casquette de policier, des lunettes et habille le monde d'injonctions. Exposer l'intime, c'est mettre l'intime sous surveillance. C'est extorquer l'intime, comme le dit justement Wajman. C'est mettre en lumière la jouissance. Le droit à la jouissance qui devient presque un devoir dans ce spéculaire spectaculaire. Julia Cher joue ici les surmois, en portant son déguisement de policier. Cette mascarade, ce recours au simulacre, vise à la complicité et à l'attente d'un événement. Cher parvient à faire de son dispositif une expérience. Elle repère les modalités d'absence liées à la médiation des systèmes panoptiques en les resituant de façon burlesque. Elle joue la toute-puissance, la dominatrice des pratiques sexuelles, en revêtant tous les semblants du contrôle. Elle les incarne, elle les intériorise, elle transpose sur le mode du spectaculaire le symptôme géant d'un monde régi par la pulsion scopique. Elle porte un masque donc qui la rend visible et qui en même temps l'empêche qu'on la reconnaisse complètement. Ça lui permet tout ça donc de représenter la duperie actuelle dans l'art. Cette volonté comme ça qu'on ressent actuellement, une volonté de transparence, la volonté des confessions, de la sincérité. Jouer avec la loi et son intention artistique. « Don't worry », dit-elle. Elle a bien fait de nous prévenir. Permission de jouir avec réserve. Julia Cher a tout saisi de la parole même du surmoi. La question, comme le rappelle Lacan à propos de Humpty Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles, est de savoir qui est le maître. Un point, c'est tout. Ici, c'est Julia, le signifiant maître. Photographie en dominatrice, elle a tout d'un impératif de la jouissance. De la comédie de la relation à l'autre, elle devient l'image de l'injonction surmoïque capitale qui est « jouie ». Alors, pour conclure, on peut dire que ces femmes artistes présentées ici, d'une part, donc, ne sont pas du tout endormies, comme on peut le croire, et puis elles ont la capacité de faire semblant, de jouer à la femme phallique pour mieux cerner le burlesque au féminin. Question masque et manque, Julia Cher et Cindy Sherman nous ont convaincus depuis déjà longtemps. Ce qui est très intéressant dans cette série d'artistes qui étaient présentés là, c'est qu'ils se risquent tous à témoigner de la vérité menteuse dans l'art avec des enjeux différents. Voilà.
Merci.
Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces artistes que vous connaissez aussi. Pas tous. Non. L'idée de... Elle faisait plutôt une entrée vers le conte, Sandy Amerio, alors que les autres sont plutôt dans le côté burlesque, dans leur œuvre, dans l'adaptation, dans l'incarnation comme ça du burlesque. Dans l'utilisation du ralenti, tout ça, cette utilisation du ralenti, le principe était intéressant quoi, par rapport au conte. Le conte à l'intérieur même du processus était intéressant quand même. Ils sont vraiment vidés, quoi. Je trouvais que c'était intéressant d'être vidé par l'histoire dans ce système-là qu'elle met en place. C'est plutôt une démonstration, quoi. C'est difficile, parce que c'est un film de 45 minutes en plus, donc il est très très long, on ne peut pas le regarder en entier. Oui. Oui, c'est les corps machines, quoi, vraiment là. Vidé par l'histoire, quoi. Je ne sais pas si vous avez des. Mais vous voyez, avec les images, c'est pas facile en tout cas.
Comment ?
C'est pas facile d'avoir la machine qui suit toujours. Hein. C'est pas facile.
Ça marche ?
Oui. Donc pour Claude Lévesque, c'est difficile de... Enfin, vous connaissez plus peut-être son travail. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ici, on ne peut pas se rendre compte vraiment de cette pression sonore, comme ça, de son travail, qui nous mène dans le conte. Là, il nous embobine complètement, quoi, dans son monde. Mais cette dernière, Julia Cher, c'est vraiment une artiste très, très passionnante, quoi. Elle est née en 54, je pense. Oui. Mais elle est très forte, quoi, vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment une des rares artistes qui est complète, vraiment. dans son projet. Celle-ci, elle est extraordinaire, extraordinaire. Son lit, c'est merveilleux. Enfin, je connais le collectionneur qui a ce lit. C'est quand même incroyable d'avoir choisi de vivre avec ça, quoi. Je vais vous remontrer. Voilà, dans le contexte. Donc, il est chez lui, hein. Et il dort dans ce lit. Mais oui, il a acheté cette œuvre et il dort dans ce lit. Et il est fait. Mais je ne sais pas s'il le branche tout le temps, quoi, parce que ça me semble impossible. Ça me semble impossible d'être surveillé dans son sommeil comme ça.
Parce que quand on dort, on ne se voit pas. Donc il est filmé lorsqu'il dort. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais oui, c'est ça.
C'est se regarder après dormir.
C'est un huis clos narcissique terrible, quoi. Bon, à part quand il y a des effractions, justement. On a l'impression que c'est dans l'attente, comme ça, de quelque chose va arriver, quoi.
Voilà.
C'est ça qui est terrible. C'est pas la... Oui, c'est une belle pièce.
Le bois dormant.
Ah oui, là, c'est très fort. Hein. Ah, oui, oui.
Il joue le bel au bois dormant, en
fait. Oui, oui. Hein? Oui, c'est vrai, oui. L'attente du bébé. Vu comme quoi, oui, les femmes ne sont pas toujours en train de dormir. Ouais. Mais en même temps, c'est un très beau lit. Oui. Je ne sais pas si je ne connais pas les acheteurs de cette pièce complètement. Bon, là, donc, vous avez vu quand elle est exposée dans une galerie. C'est une œuvre étonnante, vraiment. Avec elle, donc il faut bien comprendre qu'il y a toujours les injonctions de Julia Cher, hein, c'est-à-dire elle est en train de dire allez vas-y, t'inquiète pas, tout ça, alors que bon évidemment c'est inquiétant quoi. Bien, là bon, je peux vous dire les petites phrases qu'elle dit qui sont de cet ordre-là ou alors la montée.